This is a vicious expose of a part of the young generation, that sick generation who must ravage and plunder for their kicks.
Culture prohibée attaque. Gérard May, et oui, nous voilà de retour dans les Vosges pour un événement annuel de votre émission préférée consacrée à l'actualité de la culture panette du ciboulot, à savoir Culture Prohibée, qui prend ses quartiers donc à Gérard May pour une émission quotidienne consacrée au 21e Festival International du Film Fantastique de Gérard May. Et bien sûr, comme toujours, Gérard May, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, et également Metaluna, hein, la revue, le site metalunamag.com. Et puis, surtout, vous pouvez aussi retrouver toutes les infos sur notre émission, sur le blog de notre émission, culture-prohibé.blogspot.com.
Je déclare la 21e édition du Festival International du Film Fantastique de Gérard May ouverte.
Et vous venez d'entendre Yann Kounen qui a déclaré ouvert ce 21e Festival International du Film Fantastique de Gérard May. Voilà, et donc on va commencer notre série d'émissions. Et je suis accompagné cette année pour causer de ce Festival International du Film Fantastique de Gérard May d'un nouvel acolyte qui n'est pas vraiment un nouvel acolyte, puisque vous avez déjà entendu sa voix de nombreuses reprises dans l'émission. C'est comment dire, le pauvre garçon que je fais travailler durement chaque semaine sur le montage de l'émission, mais aussi parfois sur les traductions. Parfois il galère d'ailleurs, surtout quand il a des Chinois qui parlent en anglais par exemple, des choses comme ça, des souffrances atroces, des nuits blanches que je lui ai imposées. C'est toujours lui, the last but not the least, le fameux Léo, Léo Manien. Salut Léo et bienvenue pour la quotidienne de Gérard May.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et oui, et bonjour à toutes, surtout. Voilà. Bonjour à toutes. D'ailleurs, où sont passées les femmes, comme le chantait le ménestrel Patrick Juvet, hein, puisque aujourd'hui le jury s'est présenté, mais uniquement Roxane Mesquida, la sublime Roxane Mesquida est arrivée. Mais où est passée Tania Raymond? Où est passée Béatrice Dalle? Où est passée Vaina Gyokante? On espère qu'elles vont arriver assez rapidement. Visiblement, Béatrice Dalle, ça va être un peu compliqué. On nous a annoncé qu'elle avait été attaquée.
Il semblerait qu'elle ait été victime d'une attaque de zombies sur les quais de la gare de l'Est.
Ah. Voilà.
Voilà qui attise notre curiosité.
Voilà, c'est ce que Yann Kounen a déclaré dans un discours d'intro, d'ailleurs plutôt sympa, il faut bien le dire, qui cassait un peu avec l'ambiance sérieuse, habituelle, des discours où j'ai une grosse pression. Non, c'était plutôt coolos. On sent que Yann Kounen débarque dans un festival qu'il affectionne particulièrement.
Effectivement, il a une histoire avec ce festival, comme il nous l'a rappelé. Et, notamment, c'est le premier prix qu'il a obtenu avec
Gisèle Kérosène. Gisèle Kérosène, un court-métrage.
En
96, je crois. Ça ne rajeunit pas tout ça, n'est-ce pas? Enfin, surtout moi, parce que tu es encore jeune et fringant. Alors, aujourd'hui, on a eu la visite d'un réalisateur, d'un jeune réalisateur espagnol qui est venu nous présenter une coproduction états-unienne, Espagne, je ne sais pas comment on dit, états-uno-hispanique. Oui, on va dire ça comme ça. Voilà. Normalement, on dit américano-hispanique, mais moi, j'aime pas dire américano parce que l'Amérique, c'est quand même super grand. Voilà.
C'est pas que les États-Unis.
Voilà. Donc, voilà. Alors, il est venu nous présenter Mindscape. Alors, on va écouter tout de suite Jorge Dorado qui parle de son film. C'est bref. Rien tout de suite.
I came from Spain, so we don't speak English, we don't speak French. But they're going to say, je suis très heureux d'être ici, à Gérard May. So, it's, I think the movie speaks by itself. It's a Spanish-US co-production with Marcus Long and Teresa Formiga, that are both amazing and really good friends. And it's my first time director, so please be kind.
Ah, donc Jorge Dorado qui demande à ce que l'on soit indulgent avec ce premier film. Léo, est-ce que tu as envie d'être indulgent avec ce premier film?
Oui, c'est un métrage qui ne m'a pas particulièrement emballé, mais je n'ai pas non plus... je ne vais pas le descendre en flammes. Donc on est face à un métrage de science-fiction... que je classerais dans la science-fiction, puisqu'il est question en fait d'enquêteurs qui sont capables de rentrer dans les souvenirs des gens, et donc de les visionner, de les vivre avec leur passion, en quelque sorte. Alors ça nous donne ce qui m'a semblé être une sorte de Minority Report à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher dans le futur, d'aller chercher à deviner le futur, on va chercher dans le passé les preuves à charge ou à décharge en général, d'actions dont sont accusées les personnes ayant recours au service de ces voyageurs de la mémoire. Et donc, en l'occurrence, notre personnage principal, un enquêteur un peu sur le déclin, semble-t-il, affligé d'une histoire personnelle plutôt dramatique, se voit assigné le cas d'une jeune surdouée qui serait à l'origine entourée de meurtres mystérieux, de drames divers et variés dans une famille richissime. Donc elle refuse de se nourrir et il a pour mission de lui redonner goût à la vie quelque part, ou en tout cas goût au sandwich triangulaire, puisque c'est la seule chose dont on la verra se nourrir au cours du film. Que dire de plus sur ce film?
Moi, je peux dire plein de trucs, si tu veux. Je peux dire plein de trucs, mais moi, j'ai pas envie d'être sympa. Bon, après, voilà, je trouve que c'est un... Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un téléfilm sur un écran de cinéma. Je trouve, voilà, je peux pas être méchant, mais je trouve que moi, je pense, sincèrement, le réalisateur a pas grand-chose à se reprocher. Bon, il y a quelques champs contre champs, un peu maladroits dans des discussions, tout ça. Parfois, c'est propre, c'est plutôt bien filmé, en plan large, plutôt il travaille beaucoup sur la symétrie, parce que ça a un rôle bien sûr dans le film, la symétrie, ça s'explique, je vais pas dévoiler le film, mais il y a tout un truc qui est lié à la symétrie, qui est lié à un oscilloscope, tout ça, enfin bon voilà, il y a ça dans le film, et puis bien sûr c'est les deux hémisphères du cerveau, c'est tout ça, enfin bon, il y a plein de choses. Moi, je trouve que de ce point de vue-là, la réalisation est plutôt correcte.
C'est du côté du scénario que voilà. Se trouvent les gros défauts du film. Oui.
Il n'est pas servi par un scénario donc qui est signé...
Guy Holmes, illustre inconnu.
Illustre inconnu, c'est son premier scénar. Ouais, c'est ça, visiblement. Donc, bon voilà, alors après, on ne va pas être trop méchant. Le côté... on retrouve au casting Mark Strong, qui est un bon acteur, hein, qui a une bonne présence. Voilà. Y a Thaïssa Farmiga, qui est la sœur de Vera, qui a une vingtaine d'années de moins qu'elle, qui est tout aussi jolie que sa grande sœur, d'ailleurs, et puis qui est tout aussi douée, qui joue très bien. Et Mark Strong joue aussi très bien. Enfin bon, les acteurs sont plutôt bons. Bon, le scénar est plutôt mauvais. Il y a cette sale gueule de Brian Cox, hein, la gueule grêlée de Brian Cox, qu'on adore bien sûr, à Culture Prohibée. Bon, après, bon, le film, moi, je vois un téléfilm, parce que déjà le film commence, on a une scène qui est plutôt voilà, efficace. On comprend vite qu'en fait il se balade dans les souvenirs de quelqu'un. Et en plus, moi, ça m'emmerde un peu parce que je viens de voir il y a pas longtemps la série Hannibal, la première saison de la série Hannibal avec Mads Mikkelsen. Et cette scène-là, je l'ai vue 100 fois mieux dans la série à chaque épisode en plus, puisque c'est à chaque épisode il va se rebalader comme ça dans la mémoire des gens. Sauf que là, vu que les victimes sont déjà mortes, il rentre pas en contact comme dans le film, mais il se balade comme ça dans le passé, dans les pièces. Et puis disons que en termes de flashback médiumnique, il y a une scène beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus réussie dans le Fury de Brian De Palma, par exemple, avec Amy Irving, dans une très 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 belle scène. À noter aussi, dans le film, il y a des petites références quand même assez maladroites, avec un peu de la psychologie de bazar, c'est-à-dire qu'elle ne mange pas, donc lui s'imagine qu'elle a été victime d'abus sexuels, puisque forcément un enfant qui ne mange pas, enfin pas forcément, malheureusement c'est souvent vrai, les enfants anorexiques souvent sont des enfants, ou qui ont des troubles alimentaires, sont souvent des enfants qui ont été victimes de maltraitance sexuelle. Puis il y a d'autres choses, alors par exemple on passe son temps à enfermer cette gamine dans un placard. Bon, un coup parce qu'elle a vu papa sauter la bonne, un coup parce qu'elle s'embrouille avec ses copines de chambray, et à chaque fois on l'enferme dans un placard. Bon, voilà.
La symbolique est un peu appuyée.
Voilà, oui, la symbolique est appuyée, puis elle donne une clé au type, qui bien sûr, à lui, est une vraie cruche, hein, parce que cette clé, moi j'y pense tout de suite, et quand vous verrez le film, vous comprendrez. Voilà, parce que lui, après, il se retrouve enfermé quelque part, et il ouvre pas, et il pense pas ce con qu'il a une clé, et en fait, c'est la clé qui va faire que il va bien se faire avoir.
Ah, c'est la clé du mystère, presque.
Exactement, exactement. Et puis, bon, il y a aussi cette référence à Jackson Pollock. Le sang sur les murs, ça fait très Jackson Pollock. Alors, il y a Argento, il a fait ça il y a un max d'années, quand il faisait des chefs-d'œuvre à chaque fois qu'il se mettait derrière une caméra. Ça s'appelait Ténèbres, où effectivement il rend hommage à Jackson Pollock dans une scène mémorable avec une femme qui se fait couper un bras et qui répand tout son sang sur le mur. Et là, c'est sur un mur blanc, bien sûr, évidemment. Et là, c'est vraiment excellent, lors d'une scène, bien sûr, magnifique, filmée à la Luma, où il reprend où il visite tout un immeuble à la Luma. Scène qui sera, bien sûr, éhontément repiquée par Brian De Palma dans son mauvais L'Esprit de Cain, qui en plus, Brian De Palma Feldman n'aura même pas le, comment dire, il ne voudra même pas reconnaître qu'il a repiqué cette scène. Voilà, voilà. Moi, je trouve qu'il y a quelques références quand même. Après le film, malheureusement, le scénario est vraiment mauvais et puis surtout très, très, très prévisible. Très prévisible. On nous parle d'un Lindgren pendant tout le film et on voit un type dans le fond pendant tout le film. Évidemment que c'est Lindgren. Et pourquoi il est là? Bah, parce qu'évidemment, il est en train de faire quelque chose que personnellement, j'avais deviné, que je ne vais pas vous dévoiler. Sinon,
ne révèle pas le twist final.
Sinon, spoiler! Mais si tu as vu plein de films, tu vas vite deviner ce qu'il fout là, qui sait et pourquoi. Et puis, tu vas vite deviner que cette petite fille n'est pas du tout aussi gentille qu'elle y paraît avec son visage angélique. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, Mindscape, pour moi, est un honorable DTV de bonne facture. Mais bon, après, j'ai vu des films d'ouverture à Gérard Armé beaucoup plus lamentables. On se souvient du Devil, par exemple.
Le grand œuvre de M. Night Shyamalan.
Voilà, qui produisait, hein, mais qui était quand même bien catastrophique. On se souvient d'autres films, on va pas les enterrer une deuxième fois. De toute façon, plus personne s'en souvient. Mais je pense malheureusement que ce Mindscape, c'est pareil, se s'oubliera. Voilà. Oui. S'oubliera assez vite. Bon, c'est pas grave, on va vous causer un peu du reste de la programmation à venir dans la semaine, des films de demain, de tous les petits coups de cœur comme ça, des trucs qu'on a envie de voir,
ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas.
Voilà, ce qu'on n'attend pas, qu'on peut-être nous surprendre. It was like a Jackson Pollock painting with the blood sprayed across the floor. I can still see the exact pattern when I close my eyes. It's kind of beautiful. Close your eyes. Let's begin now. John's here. John. Her name is Anna. Special kid. Lots of problems. And what are you? I take people to their memories. Just here to find out the truth. Will I know I'm in a memory? It should feel like it's happening for the first time. It's not easy going back to bad memories. But your memories have to be real. I didn't do it, John. So you didn't poison those girls? On Monday, Anna will be confined to an institution. It's my parents who are crazy. Not me. There is something going on there behind the scenes. My mother's family is one of the richest in America. If I'm committed, Robert controls every penny. I get the feeling she's watching me like I'm some kind of bug. If you ever find me particularly attractive in a memory, it's probably because I'm making it up to. I am tired of the mind games, and I am tired of the flirting. Mr. Washington! Meet you, John. Eh bien, mon cher Léo, à partir de demain, va donc débuter la compétition officielle, hein, de ce 21e Festival international du film fantastique de Gérard Armé. Une compétition qui, cette année, m'a l'air quand même un peu plus équilibrée, un peu plus en tout cas teintée de fantastique.
Hein. Avec moins de films d'auteur
voilà.
Peut-être plus effectivement de films purement fantastiques.
On n'a pas encore vu, donc voilà. Mais bon, ou bien un mixte réussi entre le film d'auteur et le film fantastique, à l'image un peu du film qui va ouvrir la compétition demain matin et qui a déjà tourné dans pas mal de festivals. Donc ça, c'est un peu la petite pique que je ferai à cette sélection, c'est qu'il y a deux films qui ont déjà tourné dans pas mal de festivals dans cette sélection, dont celui qui va passer demain matin, qui s'appelle Dark Touch. On vous en parlera après l'avoir vu sur grand écran, pardon, excusez-moi, je bafouille. Dark Touch, on vous en avait déjà un peu parlé dans notre série d'émissions sur l'étrange festival, la dernière édition. Vous aviez pu écouter quelques mots très brefs de Marina Devan. Il faut savoir que Marina Devan doit être la réalisatrice la plus compliquée à interviewer, donc nous avions juste quelques mots très brefs, c'était déjà bien. Voilà, et Dark Touch, qui est donc un film qui parle d'une petite fille qui a des pouvoirs télékinésiques, qui va en arriver à tuer ses propres parents et qui va donc être placée dans une famille adoptive, en l'occurrence ses voisins tout proches. Voilà. Donc ça passe demain matin, on en reparlera à ce moment-là, mais un film de qualité. Et puis l'autre film en compétition qu'il y aura demain dont on parlera, c'est Rigor Mortis. Alors Rigor Mortis, c'est un film qui raconte l'histoire d'une ancienne vedette de cinéma abonnée au rôle de chasseur de vampires, Chin Su-ho. Et c'est une vedette de cinéma qui est quand même un peu dans la loose, quoi, grave. Hein. On peut dire qu'elle traverse... qu'elle effectue une longue traversée du désert, tel que c'est indiqué dans le catalogue. Et puis, cet acteur déchu va prendre une chambre d'hôtel, la 2442, pour mettre fin à ses jours. Et tout à coup, eh bien, son geste est interrompu par la présence autour de lui, on va dire, d'autres résidents plutôt singuliers. Voilà. Alors, c'est un film de Juno Mack. Hein. Juno Mack, alors c'est un peu une curiosité ce film, hein, parce que Juno Mack c'est un chanteur pop, ça a été aussi quelqu'un qui a travaillé dans la mode, qui a été une icône de la mode, et puis il a fait pas mal de clips, pas mal de petits rôles aussi, et d'ailleurs il avait joué un petit rôle dans un film qu'on avait bien aimé, qui était passé à Gérardmer il y a quelques années, qui s'appelait Dream Home, qui était un très bon slasher, et il a aussi coécrit un film vraiment très 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 chelou, si j'ose m'exprimer ainsi, qui s'appelle Revenge Love Story, qui est un film vraiment intéressant. Voilà, donc c'est la curiosité, c'est un jeune réalisateur puisqu'il est né en 1984, et donc on attend de voir ce film, ce premier film, voilà. Ensuite, la programmation va nous permettre de voir un film qui s'appelle Miss Zombie. Hein. Miss Zombie, un film au titre, bon, tout est dans le titre hein, déjà, qui a l'air comme ça assez alléchant. La photo est belle, qui nous est fournie dans le catalogue. Alors, on est avec un réalisateur japonais hein, qui s'appelle Sabu. Ça, je voulais vous en parler parce qu'il a réalisé un film qui m'avait beaucoup plu, qui avait été sorti, tout du moins diffusé par Jean-Pierre Dionnet, et qui s'appelait Postman Blues, le blues du postier, le blues du facteur. C'était sorti en 1997 et c'était vraiment, vraiment un film étrange. Et par contre, ce Miss Zombie, alors Postman Blues, c'était rigolo, c'était un type un peu solitaire qui lisait le courrier de ses usagers de la poste, et puis qui se créait une sorte de monde comme ça, un peu parallèle, et puis bien sûr ça, il allait se passer des événements un peu particuliers. C'était un film vraiment vraiment très 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 intéressant. Et là, l'histoire de Miss Zombie, c'est une histoire quand même assez mystérieuse, hein. Donc c'est l'histoire d'une famille hein, qui reçoit un jour une famille avec un médecin, hein, bien sûr, une famille dont le patriarche est un médecin, et qui reçoit un jour une mystérieuse cage avec, à l'intérieur, une morte vivante. Voilà. Et donc il y a une petite note hein, à la manière un peu des Gremlins de Joe Dante, une petite note, c'est ne pas lui donner de viande peut devenir violente, voilà. Et puis il y a un pistolet aussi qui est fourni avec au cas où la créature donc déciderait d'attaquer les humains, voilà. Alors, bien sûr, cette Miss Zombie va finir par devenir un peu la servante de la maison. Et il va se passer donc une série d'événements que nous découvrirons quand nous verrons le film. Pour un pitch qui rappelle Fido, un film américain avec des zombies domestiques. Et puis après, on va passer à We Are What We Are. Léo, tu peux peut-être nous en parler, parce que tu avais bien aimé, c'est un remake d'un film que tu as bien aimé.
Alors, We Are What We Are, oui, c'est un remake d'un film qui a été présenté en compétition à Gérard May il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement, qui s'appelait Somos lo que hay, Nous sommes ce que nous sommes. Donc, qui a été traduit littéralement en anglais, et qui était un film mexicain qui parlait de cannibalisme au sein d'une famille. Et c'était, ma foi, plutôt intéressant, aussi bien dans la facture que dans l'histoire. Alors, je suis assez curieux de voir ce que nous réserve ce remake.
Ce remake est signé Jim Mickle, réalisateur intéressant d'un film qu'on avait beaucoup aimé et défendu dans l'émission, qui s'appelait Steakland. Voilà. Et puis avant, il avait fait un petit film... vraiment sympa, qui s'appelait Mulberry Street. Alors ensuite, dans l'ordre de la compétition, il y aura un film signé Ryuari Robinson. C'est un Irlandais. Hein. Un film de SF qui s'appelle, bon, bien sûr, The Last Days on Mars. Qui raconte le dernier jour de la première mission habitée sur Mars. Hein. D'ailleurs, ça fait toujours hein, fantasmer aujourd'hui le fait d'aller habiter sur Mars.
Et bah d'ailleurs, il y a un programme en ce moment qui vise à sélectionner des candidats pour une première mission habitée vers Mars, pour une colonisation sans retour. Donc peut-être que ce film va donner des envies ou décourager des vocations.
Ouais, visiblement, ça a l'air plutôt d'être un survival sur Mars. Donc je sais pas si ça va donner des vocations. Mais écoute, on verra bien. En tout cas... bon voilà, on est content parce que on est sur du film qui est du vrai film de genre quoi. Le prochain film, alors c'est un film que j'ai très 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 envie de voir, qui est un film français, qui s'appelle Ablation. Ablation, c'est un film avec un acteur que j'aime beaucoup déjà, Denis Ménochet, et puis qui est un film un peu hors norme, puisque c'est un film totalement indépendant, produit par Benoît Delépine. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est réalisé par un très jeune réalisateur, parce qu'il n'a que 25 ans, Arnold de Parsco, donc jeune réalisateur français. Et ce film, en fait, ce film raconte l'histoire d'un type qui se réveille dans un terrain vague, avec une cicatrice dans le bas du dos, et il découvre qu'on lui a volé un rein. Voilà, ça part comme ça. Donc le pitch est plutôt alléchant, et moi je me rappelle, tu te rappelles qu'on avait vu un court-métrage de ce garçon il y a de cela maintenant 2-3 ans à Gérard May dans la compétition court-métrage.
Effectivement, un court-métrage qui mettait en scène un jeune garçon tuant son père, et qui était, ma foi, d'assez belle facture.
Oui, qui était très esthétique, très très beau, qui s'appelait Tommy, je crois. C'était le prénom du petit garçon, il me semble. Et le film regorgeait de qualité, donc on a très hâte de voir ce premier long métrage. Voilà. Alors après, si on va plus loin dans la compétition, on arrive sur le film qui a le titre le plus étrange de cette sélection.
The Babadook.
Voilà, alors The Babadook, bah tu vas peut-être nous en parler, The Babadook, mon ami Léo.
Alors qu'est-ce que The Babadook ? Apparemment, ce serait une créature qui vient hanter les enfants à travers une bibliothèque. Donc, je ne sais que penser.
Eh bien, je ne sais que penser également, moi, de ce pitch, comme on dit, de ce film d'une réalisatrice, hein, Jennifer Kent.
Ce serait un premier film.
Et puis, elle a été assistante de Lars von Trier sur Dogville. Donc, ça devrait te plaire, toi qui es fan du Dogme, mon ami Léo.
Tout à fait. Je suis assez curieux pour ce film également.
On a l'air quand même là dans l'optique plutôt des précédents, des deux dernières sélections, avec des films à mi-chemin entre le fantastique et le cinéma d'auteur. On ne demande qu'à voir. Alors, le film suivant, c'est The Sacrament.
Le dernier film de la sélection officielle.
Voilà, alors The Sacrament, un film qui a l'air très alléchant, avec un visuel en tout cas très alléchant, qui raconte l'histoire de deux journalistes qui suivent un de leurs amis à la recherche de sa sœur disparue. Et ils quittent les États-Unis pour une destination tenue secrète. Et ils arrivent finalement à Eden Parish, une communauté religieuse où quelques 200 âmes partagent l'idéal d'un mode de vie autonome, fondé sur le partage des biens et porté par un chef charismatique que ses fidèles appellent Père. Mais des zones d'ombre dans ce prétendu petit paradis vont bientôt être découvertes par les nouveaux arrivants. Voilà un pitch en tout cas qui fait très envie. Très envie aussi puisque c'est un film de notre ami T. West que l'on défend depuis maintenant de nombreuses années dans notre émission. Alors T. West, c'est The Roost qui a terrorisé avec ses chauves-souris beaucoup de cinéphiles. Et puis c'est aussi le très bon The House of the Devil, film de maison hantée vraiment très réussi qui nous avait occasionné. Je fais une petite dédicace d'ailleurs à Pierrick et à Coco qui ne peuvent pas être présents pendant ce Gérard May. Et à Coco qui nous avait parlé pendant des plombes d'une magnifique reconstitution parce que la fille avait un Walkman et que le film se passait dans les années 80. Donc, un petit souvenir, on avait bien rigolé durant la deuxième saison de Culture Prohibée. Il avait fait Cabin Fever 2 et récemment, il a fait un film de maison hantée qui s'appelle The Innkeepers qui était vraiment très bien. Et là, il a fait aussi récemment VHS. Moi, son segment est celui que je préfère. Tout le monde me dit que c'est le moins bon. Je suis tellement hermétique, comment dire, au found footage que moi, c'était celui de T. West que j'avais préféré. Et T. West, qu'on avait vu l'année dernière à Gérard May, puisqu'il interprétait le rôle du jeune cinéaste branchouille underground qui se prend une flèche en pleine tête et qui est la première victime dans la famille massacrée.
Dans Your Next de Adam Wingard.
Voilà, bon, Léo...
Effectivement, il réalise des documentaires qui sont projetés sous terre.
Voilà, d'après le gros beauf qui lui servait de beau-frère. Voilà. En tout cas, le pitch fait envie. Alors, le visuel rappelle effectivement Guyana, la secte de l'enfer, qui était adapté d'un réel fait divers qui a traumatisé les États-Unis, c'est-à-dire l'histoire du révérend Jim Jones qui avait invité sur son île une équipe de télé, ainsi je crois qu'un politicien, et en fait il y avait eu un énorme suicide collectif et ils avaient essayé de flinguer les journalistes, tout ça. Je crois d'ailleurs que quasi tout le monde était mort en fait sur l'île, plus d'une centaine de morts. Vu le visuel qui rappelle ça, je pense que ça va parler un peu de ça. Voilà. Et moi, ça me branche bien, même si, de l'avis de ceux qui l'ont vu déjà ailleurs, ou parce que le film est un peu tourné outre-Atlantique, dans des festivals, visiblement, ce serait moyen, ce serait décevant. Mais moi, T. West, je l'aime et j'ai envie de voir son film. Donc, j'ai hâte de voir. Et en plus, c'est le film du dimanche matin. Et le film de dimanche matin, c'est toujours...
Pas toujours, mais souvent le Grand Prix.
C'est souvent le Grand Prix, voilà. C'est toujours très bien. Je voulais faire une rime, moi, en fait. Mais bon. Mais c'est vrai, en plus, c'est souvent le Grand Prix. Léo a raison.
Ça l'a été, en tout cas, pour Billy Vold et pour Baby Call. Voilà. Au cours des éditions précédentes.
À côté de cette compétition, y a du hors-compète, alors évidemment. Hein. Et dans le hors-compète, y a des choses qu'on a déjà abordées dans l'émission. Il y a All Cheerleaders Die, qui est le dernier film du réalisateur de The Woman.
Lucky McKee.
Lucky McKee, voilà, merci Léo. Qui est en fait un auto-remake, qui est un remake de son film d'étudiant, de son premier film, enfin bon, voilà. Vous aviez pu écouter Lucky McKee dans l'émission parler justement de All Cheerleaders Die au début de cette saison. Et Bon, le film est un peu divisé quand même, parce qu'il part très fort pour vraiment s'essouffler par la suite. Alors moi, dans les choses après qui sont aussi hors compète, il y a un film que je voudrais absolument conseiller, qui est un film vraiment énorme, qui s'appelle Almost Human, et qui a l'air vraiment d'être un film de malade, mais surtout qui jouit d'une réputation énorme et qui avait été projeté. Qui avait été projeté à l'Étrange Festival et qui est un gros film, un gros film. Bon, voilà, j'en dis pas plus. On est autant dans le film d'auteur que dans le film de genre, mais vraiment vraiment passionnant. Alors, autre film qui s'annonce énorme là, en compète, c'est Almost Human de Joe Bagos, qui a traumatisé tous les spectateurs qui ont pu le voir dans d'autres festivals où il a été diffusé, et qui a vraiment l'air énorme et que j'ai très envie de voir, mais je sais pas si on arrivera à voir tout ce qu'on a prévu de voir, Léo. Il y a aussi
surtout qu'il est projeté assez tard, donc
ouais, c'est pas très simple, comme le giallo argentin d'ailleurs Sono Profondo, que j'ai très envie de voir, mais qui va être très difficile à voir. Donc voilà, ça va pas être évident. On va voir ce qu'on peut faire. Il y a aussi des films qu'on vous conseille d'éviter hors compète. D'ailleurs, ce sera celui de clôture, Kiss of the Damned, qu'on avait démonté dans l'émission de Xan Cassavetes, malgré son casting féminin de haute volée. Non. C'est vraiment trop de la daube, faut le dire. Hein. Sorte de Twilight pour bobo adulte. L'autre monde, par contre, qui a l'air super bien. On avait interviewé le producteur dans l'émission, Fabrice Lambeau, hein, qui est le dernier documentaire de Richard Stanley, complètement barré sur tous ces gens qui ont cru à la fin du monde et tout ça et tout. Enfin bon, voilà, assez démentiel. Là, ce qui a l'air aussi sympa, c'est Discopathe, du réalisateur de la série Inspecteur Bronco. Je vous invite à aller sur internet pour découvrir Inspecteur Bronco de Bombay. C'est quelque chose d'assez énorme. Et Discopathe, le pitch fait carrément rêver, puisque ça se passe dans les années 70, et c'est un type, à chaque fois qu'il entend de la disco, il devient serial killer. Voilà. Donc on est un psychopathe, c'est un discopathe. Voilà. Donc j'ai très envie de voir Discopathe, qui est donc le premier long métrage du Québécois Renaud Gauthier, qui interprète d'ailleurs fabuleusement maquillé, qui interprète lui-même l'inspecteur Bronco de Bombay, hein, dans sa série déjà culte. Alors voilà, il y a toutes ces choses-là. Bon, il y a plein d'autres choses aussi hors compète. Hein, si on arrive à en voir, bien sûr, on vous en dira un peu plus. Il y a la série Metal Hurlant Chronicles qui est très bien. Il y a Static qu'il faut surtout ne pas voir parce que ça, c'est vraiment de la merde. Il y a le documentaire, j'irai pas plus loin, on en a déjà parlé dans l'émission. Enfin, il y a pire, hein, mais c'est vraiment chiant comme la mort. Et il y a Super 8 Madness sur le festival du Super 8 fantastique qui avait lieu à Paris, qui était organisé par JPP. Salut JPP. Il y a VHS 2 qu'on a déjà vu, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu sur le grand écran, c'est quand même sympa, surtout pour le sketch qui se passe dans la secte. Et puis moi, il y a le film que j'attends par-dessus tout.
Je l'attends avec toi également. L'étrange couleur des larmes de ton corps de Hélène Katté et Bruno Forzani, qui nous avait gratifié en 2009 d'un amer que pour ma part j'avais adoré.
Et que j'avais moi-même mis film de l'année. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est, voilà. Et voilà. Donc Bruno, en plus Bruno, qui est un ami, un partenaire de l'émission, avec qui on a fait déjà de belles émissions. Donc là, je m'avance pas trop. Alors à moins qu'il y ait, comment dire, un incident de dernière minute ou vraiment un imprévu, on a déjà rendez-vous avec Bruno pour une sympathique interview où il reviendra donc sur ce nouveau giallo qui a l'air complètement ouf. En tout cas, c'est d'ores et déjà pour moi la plus belle affiche de ce festival en termes d'affiche de cinéma, bien sûr, hein, le plus bel objet pour cinéphile. L'affiche de Kiss of the Damned est pas mal, mais celle de L'étrange couleur des larmes de ton corps est encore plus belle. Voilà. Alors on se retrouve donc demain pour causer de Dark Touch, n'est-ce pas mon cher Léo?
Tout à fait, Dark Touch, Rigor Mortis et peut-être All Cheerleaders Die si on a l'occasion de le voir.
Voilà, si on arrive à se trouver un petit créneau, on va voir ce qu'on peut faire. Et ben voilà, mais c'était Culture Prohibée attaque Gérard May, une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. accompagné cette année pour la première fois de Léo Magnin, qui est à la fois donc notre technicien et aussi notre chroniqueur pour cette série d'émissions en direct du Festival International du Film Fantastique Gérard May. On se retrouve demain pour une nouvelle série de frayeurs vosgiennes.